Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
Amis auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, bonsoir et merci de votre fidélité sur Radio Canal K, ici même en Suisse, à Lemanéka, Rau, Fribourg, Genève, Lausanne. Également, merci à notre radio partenaire à Lomé au Togo, Légende FM. L'atmosphère politique au Togo est très critique à l'approche des élections législatives annoncées par le gouvernement. Et après un mois de la série d'incendies des marchés au Togo, cette tragédie continue de susciter de vives colères au sein des victimes et également au sein de la population togolaise. Nous aborderons donc les sujets d'actualité sur la crise politique au Togo dans un instant avec nos invités qui seront en ligne en direct depuis Lomé. Eh bien, sous l'œil vigilant de Michel Pouléo, Josué Maoli, Esteban Gagnon, Romain Koudjodi, Lucien Moukanli, Fabi Kwasi constituent l'équipe de production. Fenêtre sur l'Afrique est réalisée et présentée par Sylvain Amous. Encore une fois, merci de votre fidélité sur Radio Canal K, Légende FM et Lavra, la voix de la résistance africaine. Dans un instant, notre éditorial. Depuis plusieurs années, le Togo, notre pays, est confronté à des difficultés monstres. Plus rien ne va au Togo. Le tableau qu'offre ce pays est sombre et nébuleux, en passant par l'échec de l'équipe nationale, malgré la volonté manifeste de nos éperviers. Il y a aussi l'échec des politiques. L'entêtement du pouvoir à organiser des élections législatives avec ses partis satellites et le désaccord même de l'allié du parti du pouvoir, l'UFC, qui se manifeste de jour le jour. S'agissant de la participation des éperviers du Togo à la CAN Afrique du Sud 2013, nos joueurs n'ont pas démérité, car ils ont réussi déjà un exploit en se qualifiant pour les quarts de finale. Pour la première fois en faisant revenir le pays au firmament après 38 ans d'une dictature qui a sclérosé la pensée, embourbé le tissu social et détruit le sport. Les éperviers ont pu, pendant un peu plus d'une semaine, mis du baume au cœur. Pourtant, ils ont été remerciés en monnaie de singe. Impréparation, nuit froide dans les halls d'aéroport et finalement bourde au niveau de l'organisation. Le travail qu'ils ont fait a le mérite de démontrer à la fin du monde qu'on ne vient à bout de ces crises récurrentes que par la volonté politique, une aspiration profonde de son peuple et une nécessité en démocratie. Le confrère Atolo Messon de la télévision nationale togolaise a dans son reportage démontré le calvaire vécu par le staff sportif togolais et les éperviers dans l'organisation chaotique de leur retour au bercail. Eh bien, la crise a atteint toutes les couches. On s'en souvient encore, il y a quelques semaines, de cette tragédie d'incendie des marchés au Togo. Cette série d'incendies est un drame humain qui se lit dans les yeux hagards des femmes du grand marché d'Adaolato et de Kara et qui démontre le manque de protection des gouvernants dans la protection de leurs biens. Le gouvernement jusqu'à ce jour, soit bientôt un mois, n'est pas capable de dresser le bilan et de nous dire combien s'évalue le nombre de femmes sinistrées et combien sont les femmes sinistrées. Que vont devenir tous ceux qui vivent au jour le jour de ces marchés? Nous voulons parler des portefeuilles, des émijamans et des taximans et autres. Le gouvernement n'en est pas capable de dégager le bilan, mais est prompt à arrêter des paisibles citoyens dans les rangs de l'opposition, notamment du collectif Sauvons le Togo, et bien sans toutefois arriver à circonscrire les feux qui continuent toujours par brûler paisiblement. Mais finalement, il est à loisir de se poser la seule question, amis auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, pourquoi seulement 2 mois avant les élections législatives que cette tragédie d'incendie intervienne et à qui profitent ces incendies au Togo des marchés? Au sein de la population, c'est de l'émoi, confusion totale, tristesse et misère. Eh bien, c'est justement dans ce décor de désolation que le Premier ministre et son gouvernement, nonobstant la souffrance des citoyens, se permettent d'organiser des élections législatives uniques. Heureusement que le Premier ministre, malgré ses élucubrations, semble-t-il, a reçu une fin de non-recevoir de l'Union européenne. Mais d'ores et déjà, l'allié au pouvoir Gilles Olympio vient de déclarer sur les antennes que le mois de mars ne peut pas connaître des élections législatives crédibles. Le pouvoir togolais doit mettre la balle à terre et désamorcer la bombe en relaxant les innocents qui croupissent en prison, que de qu'on appelle déjà des prisonniers politiques, et amorcer un dialogue sincère, dit-on, et franc avec l'opposition en vue des solutions idoines. Le Togo est un patrimoine commun et nul n'a intérêt à ce que ce pays sombre. Et quand il sombrera par la faute de la bêtise humaine, nul ne sera épargné. Et c'est pourquoi le gouvernement doit revoir sa copie. Et le peuple togolais doit savoir que sa libération est proche et se laisser manipuler par des politiques sera un échec cuisant pour sa libération.
Yeah.
Bien, one day chanté par Amen Jassi, c'est un jeune Togolais qui est vraiment déterminé pour la libération du Togo. One day chanté par Amen Jassi, c'est bien sûr dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci de votre fidélité.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
Le 5 février dernier, il y a 8 ans, que Feu Gnassingbé Yadema, celui-là même qui a dirigé le Togo d'une main de fer pendant 38 ans, quittait ce monde. Pour plusieurs observateurs nationaux, son fils Faure Gnassingbé incarne toujours l'image dictatoriale de son père depuis sa prise de pouvoir en mars 2005, qu'est devenu le Togo 8 ans après la mort de Feu Yadema. Notre correspondante Fabi Kwasi, en direct depuis Lomé, vous propose une réflexion. Fabi Kwasi, bonsoir.
Bonsoir Sylvain Mauss, effectivement 8 ans après le décès de Gnassingbé Yadema, le miracle de la rupture de la gestion du pays promis par son successeur de fils ne s'est pas produit. Les vocables, lui c'est lui, moi c'est moi, un homme nouveau dans un esprit nouveau, ne sont donc que des fabrications marketing pour berner l'opinion nationale et internationale. Il n'est plus un secret pour personne que Faure et Sozimane Gnassingbé a capté le fauteuil présidentiel à la suite d'un triple coup de force militaire, institutionnel et constitutionnel dans un torrent de sang, celui d'un millier de Togolais. En quête de légitimité au lendemain de la signature de l'accord politique global intervenu entre les différents acteurs politiques et dans un discours hypocrite, toujours pour endormir les Togolais tenus à tatamer et qui souffrent des atrocités de 2005, Gnassingbé II promettait une vraie réconciliation togolaise et leur flanquait à la figure, plus jamais ça, histoire de rassurer qu'autant de sang ne coulerait plus sur la terre de nos aïeux, un vrai canular. 8 ans après sa prise de pouvoir, le prince de la République bananière du Togo démontre tous les jours qu'il n'a que faire du respect de la vie, de la dignité et de la liberté de ses concitoyens. Il torture en Bastille pour un 8 ou 1 an ses frères, amis et fidèles d'hier, notamment Tatia Gnassingbé, Bertin Ada, Pascal Boudjona, taxé ici de prisonnier personnel de la République, et ses adversaires de l'opposition, Agbiomé, Adja, Ogo, et la liste est bien longue. Gnassingbé Faure figurerait donc en bonne place dans le classement Guinness Record des pires dictateurs que l'humanité n'ait jamais connus, sauf que lui est visiblement le plus jeune des Pinochet, Hitler, Kadhafi, Mobutu, etc. 8 ans après, un pouvoir offert sur un plateau de sang et non mérité, force est de constater que toutes les institutions, justice, Assemblée nationale, Cour suprême, Cour des comptes, Cour constitutionnelle, Haute autorité de l'audiovisuel et de la HAC et tous les leviers financiers, ports, sociétés de téléphonie mobile, douanes, impôts et autres sont sous la coupe réglée de M. Gnassingbé II. Objectif, concrétiser son rêve de bail illimité sur le Togo, au mieux faire plus que Papa Gnassingbé qui a totalisé presque 40 ans de règne sans partage. En 8 ans, c'est donc le retour au parti unique, parti pétard, où tous ceux qui obéissent au prince bénéficient de toute la largesse et surtout de l'impunité. Le pays est qui est assez ouvert, pourvu que vous regardiez dans la direction du prince, vous ne serez jamais inquiété. Selon le recoupement, en 8 années de gestion calamiteuse de Gnassingbé Faure, une quarantaine de personnes venues du néant seraient déjà milliardaires, tout simplement parce qu'elles ont permis à Faure Gnassingbé d'œuvrer dans ces basses besognes. Le chef de l'État togolais lui-même défraie la chronique par son train de vie faramineux, racing à Paris, achat de chocolat de qualité, de boissons dans les magasins les plus huppés de la planète, des femmes de toutes couleurs et de toutes gammes, voitures avoisinant le milliard, voyages fantaisistes avec pour destination privilégiée l'Italie. Ces voyages coûteraient, Sylvain, en 8 ans de présidence, selon les informations, près de 700 milliards aux contribuables togolais. après 53 ans d'indépendance, 50 ans après l'assassinat de Silvanus Olympio, 8 ans après le décès de Ford de Gnassingbé Yadema, et au temps de gestion de Gnassingbé fils à la tête du pays, le Togo poursuit sa descente aux enfers avec les mêmes mots, non-respect des lois et textes de la République, des droits humains, une véritable crise d'éthique, d'identité et de morale au sommet de l'État, avec à la force de la baïonnette où l'armée, qui est toute sauf républicaine, est formée pour mater et tuer tous ceux qui crient justice et dignité. La seule mission de cette armée, des Gnassingbé, faire tout, quitte à tuer tout le monde pour le règne éternel du clan au pouvoir sous le regard complice et coupable de la communauté internationale.
Fabi Kwasi, merci, à samedi prochain.
Le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos sur Radio Canal K.
Plus de trois semaines après la tragédie d'incendie des marchés au Togo, le peuple vit-il dans une confusion totale? Eh bien, Doko répondront oui et non. Mais cette tragédie d'incendie continue de susciter de vives émois et interrogations. Pourquoi ces incendies des marchés surviennent seulement 2 mois avant la tenue des élections législatives? Eh bien, quand même, question qui sème beaucoup de doutes au sein de la population togolaise par rapport à la gestion de cette affaire d'incendie des marchés par le régime du Fort Gnassingbé. Instrumentalisation des institutions de l'État. Une armée qui a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir. Intimidation, manipulation et corruption sur de paisibles citoyens. Voilà comment l'opinion nationale qualifie le gouvernement togolais qui, en réalité, est à bout de souffle. La tragédie d'incendie des marchés au Togo cache-t-elle des vérités sur la tenue des élections législatives au mois de mars? Tiendra ou tiendra pas? Certains politiques pensent que boycotter les élections législatives est suicidaire. Eh bien, pour répondre à ces préoccupations, nous accueillons dans un instant 2 invités en ligne, en direct depuis Lomé. Eh bien, nous accueillons en premier Madame Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson. Bonsoir.
Oui, bonsoir Amos.
Merci infiniment d'être l'invité de Fenêtre sur l'Afrique en direct depuis Lomé. Également en direct depuis Lomé, professeur Magloa Kokouvi, professeur de philosophie à l'Université de Kara et de Lomé. Bonsoir professeur Magloa Kokouvi.
Bonsoir.
Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Alors rapidement, commençons tout d'abord par cette tragédie d'incendie qui continue de susciter beaucoup d'émoi et d'interrogations au Togo. Alors Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson, je rappelle que vous êtes présidente de la coalition arc-en-ciel, secrétaire actuel général par intérim de la Convention démocratique des peuples africains CDPA. Eh bien, quelques semaines après les incendies des marchés de Kara et de Lomé, et comment analysez-vous, madame, et la gestion de ce drame par les autorités togolaises pour soulager les victimes?
Oui, merci. Je voudrais saisir une fois de plus cette opportunité que vous m'offrez pour exprimer ma solidarité et toute ma sympathie avec les victimes de ces incendies. Nous demandons tous pourquoi fallait-il que cela arrive, et je suis sûre que c'est aussi la question que la plupart des Togolais se posent, et nous attendons de connaître la vérité sur ce qui s'est passé véritablement.
Exactement.
Alors, vous me demandez quelle analyse je fais de la gestion du drame par les autorités togolaises pour soulager les victimes. Je vous dirais que c'est vrai, nous avons observé depuis la survenue des incendies que des initiatives ont été prises pour enregistrer les victimes, c'est normal, il faut savoir qui sont ces victimes et pouvoir évaluer ce qu'elles ont perdu. Nous avons appris récemment aussi que quelques institutions de microfinance, à savoir la FUSEC et WIGES, ont entrepris d'accorder de nouveaux prêts aux femmes à des conditions qui sont des conditions exceptionnelles. Mais ce que je pense, c'est que les initiatives ne sont pas à la hauteur, ne sont pas encore à la hauteur des attentes des femmes. Moi-même, en tant que personne travaillant pour les droits des femmes, vous savez que par ma profession, je dirige un réseau de droits des femmes en Afrique. Et dans le cadre des actions que nous initions, nous avions installé un centre d'aide juridique au cœur du marché de Lomé, au deuxième étage, un centre d'aide juridique qui a brûlé. Et comme vous voyez, donc nous étions déjà en contact avec les femmes, nous connaissions bien leurs problèmes. Depuis ces incendies, nous nous sommes réunis avec certaines des femmes que nous avons formées sur la question des droits des femmes pour analyser la situation avec elles et voir quelles sont leurs priorités. Et il nous est revenu que la première des priorités pour ces femmes-là, c'est qu'on leur trouve des places pour reprendre très rapidement leurs activités.
Exactement. Donc, Madame Brigitte Adjamagbo, vous pensez que le gouvernement ne gère pas bien ce drame d'incendie pour soulager les victimes?
Non, disons que la célérité, nous aurions aimé une plus grande célérité. À ce jour, ce qu'on observe, c'est que la question des places n'est pas encore véritablement réglée. Les femmes elles-mêmes ont identifié un certain nombre d'endroits. C'est leur point de vue. Il est normal que le gouvernement examine, mais nous pensons que on devrait donner une réponse à cette question le plus rapidement possible. Ensuite, je crois que très rapidement, lorsque le gouvernement aura évalué les dommages, c'est vrai, j'ai parlé des initiatives qui ont été prises par les institutions, mais elles sont marginales. Elles sont marginales et ce que les femmes attendent aussi du gouvernement, c'est qu'ils prennent une initiative pour subventionner aussi les victimes et les dédommager en quelque sorte. Et c'est quelque chose que les femmes attendent. Et je pense que il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des mesures d'accompagnement.
Il y a mieux à faire que ça.
Au niveau des taxes, justement. Au niveau des impôts, etc. Et il faut vraiment, au bout d'un mois, il faut que le gouvernement annonce davantage du concret.
Merci. Voilà. Merci, Brigitte Adjamagbo Kafui, en direct depuis Lomé. Et je vous l'annonce également que nous avons également le professeur Magloire Kokouvi, professeur de philosophie à l'Université de Lomé de Kara, également en direct depuis Lomé. Est-ce que, professeur Kokouvi, est-ce que vous vous posez la question de savoir, ou bien est-ce que vous posez la question, la même question que se posent beaucoup de Togolais, hein, pourquoi cette tragédie d'incendie seulement à l'approche des élections législatives dont sa crédibilité est mise en question déjà par l'ensemble de l'opposition, hein. Alors, quelle est votre analyse rapidement et commentaire sur ces incendies et des marchés au Togo, professeur Kwakouvi Magloire?
Bonsoir également à tous les auditeurs et auditrices. Et à mon tour, j'exprime toute ma compassion à mes belles-mères, mes belles-sœurs qui ont perdu tout leur étalage au grand marché parce que c'est un drame familial pour moi. J'espère bien qu'elles vont redémarrer dans les meilleurs délais. Au-delà des considérations juridiques et politiques, moi je vais prendre comme d'habitude le point éthique pour dire que le problème de l'incendie a été géré avec de l'amateurisme parce que Lorsque le drame est arrivé à Cara, on a posé la question à Mémé. Nous nous sommes entendus dire que toutes les précautions sont prises et que ça ne pourrait pas arriver à Lomé, malheureusement. Moins de 16 ans, 12 ans après, c'est arrivé. Je veux dire par là que là où se situe le marché, il est très facile de trouver de l'eau. On aurait pu concevoir autrement la bouche d'incendie pour que l'incendie soit bien circonscrit, mais le drame de notre pays, c'est que vous ne saurez jamais la vérité à 100%. Hein. Il manquera toujours quelque chose. On dit que l'incendie a commencé vers 20h. Hein. Il y a une gendarmerie en face du marché. Il y a des agents de surveillance. Il y a un commissariat à moins de 200 mètres. Mais malgré toutes ces précautions-là, le feu a tout consumé. En plus de ça, des gens ont vu leur tirelire, leur tiroir caisse vider complètement, alors que le feu n'a pas atteint ces lieux-là. Donc lorsque on nous dit qu'une enquête est ouverte et que l'on ne dit mot sur ces vols-là, on a même vu une dame amener deux voitures ou deux camions pour prendre des biens détruits, on fait l'impasse là-dessus et on se met à arrêter tous les minutes dans les positions. C'est là le côté éthique et
justement
là où on peut dénoncer l'iniquité et puis c'est ce qui m'a chagriné le plus.
Et professeur Magloire Kokouvi, nous allons quand même y arriver à ces enquêtes-là qu'a ouvert le gouvernement togolais. Effectivement, Madame Brigitte Adjamagbo, le pouvoir a ouvert une enquête. Alors, quel regard portez-vous sur ces enquêtes des autorités judiciaires qui ont mis en prison, hein, le professeur Kouakouvi Magloire vient également de le dire, et le gouvernement, hein, a mis en prison des responsables militants du collectif Sauvons le Togo et qui, pour ces autorités, sont les auteurs de ces tragédies. Et Brigitte Adjamagbo et Johnson.
Vous savez, à la CDPA et à Arc-en-Ciel, nous avons dit dès le début que c'était important que nous sachions, nous connaissions la vérité sur ce qui s'est passé, mais nous avions prévenu déjà à l'époque le gouvernement, nous l'avions mis en garde contre toute tentative de vouloir utiliser ce drame à des fins de règlement de compte politique. Et je dois dire que lorsque les arrestations ont commencé, tout en ne déniant pas au gouvernement le droit de mener des enquêtes, nous avons été étonnés par la manière dont ils s'y sont pris. Vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles l'immunité de M. Agbeyome a été levée, hein, en flagrante violation des procédures, hein, prévues par l'Assemblée nationale. Vous avez vu aussi comment on a été amené à perquisitionner en son absence. Hein, vous avez vu que la plupart des arrestations qui ont été opérées par la suite l'ont été dans des circonstances vraiment rocambolesques, qui laisse croire que on a pris aucune disons c'est comme si on avait peur que les gens fuient et on aurait pu les inviter à venir à la gendarmerie, mais au lieu de cela on a vu comment on est allé les chercher chez eux vraiment. Ce qui nous inquiète, c'est les procédures qui ne sont pas respectées dans cette histoire. Et vous savez, notre pays se trouve malheureusement en crise, une très longue crise. Et il se fait qu'il y a une espèce de défiance des Togolais vis-à-vis de nos institutions.
et plus précisément de l'institution de la justice. Et c'est dommage que lorsque la justice pose des actes dans des événements aussi graves dans la vie de notre pays, c'est dommage qu'elle ne prenne pas les précautions qu'il faut pour, comme pour dire aux populations, voyez, vous n'avez pas confiance en moi, mais je fais les choses comme il faut. C'est véritablement dommage et aujourd'hui,
justement,
nous pensons qu'il faut trouver un mécanisme, il faut trouver une solution pour que des enquêtes vraiment crédibles soient menées.
Justement.
Parce que cette justice, même si par la suite on a accepté que ceux qui ont été appréhendés soient assistés d'un avocat, il y a eu beaucoup, il y a eu des faux pas qui ont été faits dès le départ et cela a créé véritablement une psychose et une espèce de défiance vis-à-vis de cette justice-là. Qu'on arrive et c'est pour ça que Arc-en-Ciel, dans l'un de ses communiqués, a demandé qu'une commission d'enquête internationale soit mise en place. Et nous travaillons, nous défendons cette idée-là auprès des partenaires du Togo, auprès des institutions pertinentes pour que une solution soit trouvée.
Bien sûr. Et parlant justement d'enquête internationale, le collectif Sauvons le Togo a déjà demandé au gouvernement et cette enquête internationale. Nous allons également demander au professeur Magloire Kouakouvi, et de ce qu'il pense également de cette enquête du gouvernement. Effectivement, après une enquête, professeur Kouakouvi, du pouvoir, le pouvoir togolais incrimine certains responsables du CST. Alors, comment expliquez-vous à votre niveau l'arrestation des membres, de certains membres du collectif Sauvons le Togo dans cette affaire d'incendie? Le cas d'Agbemi Kodjo, madame Brigitte Kafia Djamgbo vient également de l'affirmer. Le cas d'Agbemi Kodjo, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, dont son immunité parlementaire a été vite levée dans des conditions que beaucoup critiquent encore. Et professeur Kouakouvi Magloire.
Oui, nous avons toujours eu au Togo, je parle en tant qu'activiste des droits de l'homme, un problème sur les gardes à vue qui ne devraient pas excéder 72 jours. 72 heures plutôt, mais lorsque les événements adviennent dans le pays, on voit que ces 72 heures sont jetées aux orties et toutes les procédures juridiques et légales sont bafouées au point qu'on ne sait pas si il y a une réelle séparation des pouvoirs comme nous l'avons exprimé dans notre propre constitution. C'est quelque chose qui nous chagrine beaucoup, en ce sens que le pays regorge d'universitaires de haut rang et dans la magistrature, il y a des gens barbés de diplômes, mais on est en face d'une politique de tupamaros et de gangsters qui ne craint ni Dieu ni diable et qui fait les choses à sa manière. En principe, la police judiciaire doit être formée en connaissance des lois et des instruments internationaux, régionaux, signés, ratifiés par le pays. Mais quand les événements arrivent, on a l'impression que c'est maintenant que le Togo est indépendant et qu'il bricole en attendant de mettre en place ces procédures-là, 50 ans après les indépendances. C'est comme ça que ça se passe pour l'instant. Et j'en appelle à la probité et au courage des hommes de loi pour qu'ils puissent opérer une césure un jour pour dire non à ces manières cavalières de prendre les gens dans leur maison sans procédure, à des heures non légales, etc. Et c'est le vœu que nous formulons parce que en tant que société civile, nous sommes complètement désarmés devant ces corps habillés qui font corps avec le pouvoir et qui exécutent des ordres indus malgré le fait que nous soyons au XXIe siècle.
Merci, professeur Kouakouvi. Madame Brigitte Adjamabo Johnson, parlant toujours d'enquête, le pouvoir avait arrêté des jeunes qui ont cité les noms de certains membres du collectif Sauvons le Togo, mais il semblerait que leur témoignage, le témoignage de ces jeunes arrêtés, et ces témoignages ont été recueillis, selon nos indiscrétions, dans des conditions opaques qui peuvent être irrécevable devant toute juridiction indépendante. Est-ce que cette enquête du pouvoir sur cette affaire descendue est crédible, selon vous, Madame Brigitte Adjamabo?
Non, mais je viens de le dire. Je viens de le dire. Ce qui s'est passé dans notre pays est très grave. C'est grave. Ça vient compliquer davantage la situation du Togo, qui n'était pas déjà simple. Et il faut utiliser les bonnes solutions, les solutions qu'il faut. Il faut faire en sorte que les uns et les autres soient rassurés, qu'on puisse aller à l'apaisement. Et surtout, ces victimes, elles ont le droit véritablement de savoir ce qui s'est passé. Et il faut le faire, il faut trouver un cadre où ces enquêtes pourront se dérouler tranquillement, en toute sérénité, sans que les populations, par la suite, n'aient à dire ces résultats-là, nous n'y croyons pas. Alors, c'est pour ça que nous pensons que la solution qu'il faut serait d'aller vers cette commission d'enquête internationale-là, mais c'est une solution dans le court terme. En dehors de la commission d'enquête internationale, nous pensons que nous devons très rapidement aller au dialogue politique dans ce pays pour créer les conditions pour que nous allions aux élections, car nous sommes convaincus que ces élections vont permettre aussi d'apporter un début de solution à la crise de nos institutions. Vous savez, le président Obama l'a dit, et beaucoup d'Africains en sont de plus en plus convaincus. Le problème de l'Afrique, c'est le problème de la faiblesse de ces institutions. Il nous faut des institutions fortes, des institutions fiables, qui doivent être de solides piliers de nos démocraties et du développement. Et il est temps que le Togo s'engage véritablement à bâtir ces institutions-là. Imaginez-vous un instant qu'il y ait eu une assemblée véritablement démocratique. Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu lever aussi facilement et en violation des procédures prévues l'immunité de M. Agbeyome? Non, cela n'aurait pas été possible. Donc nous pensons que dans le court terme, il faut cette commission d'enquête internationale et penser aussi rapidement à relancer le dialogue de manière à ce que nous puissions aller aux élections. Une fois que les conditions de transparence seront créées et si l'opposition s'organise, eh bien nous sommes convaincus que nous sortirons de ces élections-là avec une nouvelle majorité, une assemblée vraiment démocratique qui pourra prendre ses responsabilités et contribuer aux tâches de développement
bien
et
évidemment
d'approfondissement de démocratie.
Bien évidemment. Nous allons demander également l'avis du professeur et Magloire Kokouvi et sur l'enquête internationale que demande l'ensemble de l'opposition, dont notamment le collectif Sauvons le Togo dans cette affaire descendue. Et professeur Kouakou et Magloire Kokouvi, qu'est-ce que vous en pensez de cette enquête internationale?
Oui, je crois que c'est une bonne chose. Malheureusement pour le Togo, c'est un remake. Parce que, à l'attentat de Soudou contre l'UFC, il y a eu une enquête internationale. Et je ne crois pas que les Togolais qui ont vu le rapport final de cette enquête-là atteignent la douzaine. Je ne crois pas. parce que j'avais accompagné cette enquête-là en tant que vice-président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Il y a eu une enquête internationale sur la mort de Akitia Bobby. Ce que moi je voudrais souhaiter, c'est que dorénavant, une fois que l'enquête a été bouclée, que l'on ait remis le rapport au gouvernement togolais, on le mette en entier sur Internet pour que tous les Togolais puissent y accéder, pour que nous sachions la réelle vérité, parce que commanditer des enquêtes et les remettre au gouvernement togolais, le peuple n'y croit pas beaucoup. C'est ce que la CDJR a fait. Une fois que les recommandations, les rapports ont été rendus au président de la République, ces recommandations ont été rendues publiques. Et nous y avons accès, nous savons ce que l'on a demandé et nous attendons le gouvernement pour qu'il le mette en pratique. Je crois que ce serait la meilleure formule parce que des marchés qui brûlent et pour lesquels on accuse des gens et la population qui démarre. Il y a le cas d'Aklafou qui est dans toutes les mémoires des Togolais. C'est un réel accident du fait de paille que le vent a emporté, mais on a accusé tout de suite l'opposition en disant que voilà, la série continue. Donc, ce que je voudrais ajouter, je le répète encore, une fois que l'enquête internationale aura été bouclée, il serait bon que les résultats soient rendus publics sur le net une fois qu'on aurait donné la copie au gouvernement.
Bien évidemment. Et je pense que c'est quand même ça revient également aux Togolais. Aux Togolais de prendre des responsabilités vis-à-vis de cette enquête internationale que demande l'ensemble de l'opposition togolaise. Eh bien, et Madame Brigitte Kafia Djamgo-Johnson, vous venez de parler de dialogue, également des élections au Togo. Eh bien, malgré cette situation de crise, vous-même, vous venez de le relever, le Togo va être très mal, hein. Alors, malgré cette situation, le pouvoir insiste sur la tenue des élections législatives en mars prochain. Eh bien, pour le collectif Sauvons le Togo, pas question de participer à ces élections sans les réformes. Est-ce que, à Canciel, hein, est toujours dans sa logique d'une coalition électorale. Bref, allez-vous participer à ces élections législatives, Brigitte Adjamagou-Johnson?
Oui, avant de répondre à cette question-là, j'aimerais dire que je suis tout à fait en accord avec le professeur Kouakouvi. Pour nous, l'enquête internationale ne saurait être une fin en soi. Il faut qu'une suite soit donnée. Hein, aux conclusions de cette enquête-là, c'est-à-dire que les auteurs hein, de cet acte odieux soient poursuivis comme il se le doit dans tout état de droit. Et ceci est une autre paire de manches. Nous avons l'enquête qui a été réalisée par la commission Doudou-Dien en 2005, qui a produit un rapport qui a été rendu public et qui nous permet de savoir aujourd'hui quels sont les auteurs des tueries que nous avons connues en 2005. Mais ce qui a manqué, c'est que il n'y a pas eu d'initiative qui a été prise pour poursuivre ces auteurs. Mais c'est déjà un pas que de connaître la vérité. Et un jour ou l'autre, eh bien, on verra quoi faire des résultats de ces enquêtes-là. Alors, pour en revenir à votre question, je voudrais dire que, comme vous l'avez rappelé, effectivement, l'essence de la coalition arc-en-ciel, c'est l'alliance électorale. C'est l'alliance électorale et nous y tenons. Nous y tenons parce que nous croyons véritablement qu'il n'y a de salut pour le Togo, pour les forces démocratiques, les forces du changement, que dans cette stratégie-là. Maintenant, vous me demandez, est-ce que on ira aux élections en mars? Je pense que c'est une question qui ne mérite même plus d'être posée, dans la mesure où la CENI, que tout le monde conteste dans l'opposition, elle-même vient de se rendre compte que elle n'est pas du tout réaliste. On ne peut pas, alors que rien n'est fait, alors même que les règles du jeu ne sont pas connues, les règles du jeu ne sont pas consensuelles, elles ne sont même pas connues, hein, à ce jour. Il y a eu des dialogues qui ont été menés à plusieurs vitesses, des décisions qui ont été prises par à coup, au point qu'on ne sait même plus quel est le contenu de notre code électoral au jour d'aujourd'hui. Donc, pour nous, naturellement, il faut absolument un dialogue. Il faut que les forces politiques se mettent à table et se mettent d'accord sur les conditions d'organisation des élections avant même que le problème de la date ne se pose. La CENI, il semblerait que la CENI envisage maintenant le mois d'avril ou le mois de mai, mais la question de la date, elle ne peut pas se poser en l'état actuel de la situation politique.
Donc, en bref, Brigitte Adjiambo-Johnson, vous allez participer à ces élections législatives.
Nous irons, mais avant d'y aller, nous travaillerons pour obtenir des conditions de transparence. Et nous irons en bloc.
Et si vous n'avez pas obtenu...
Profiter de vos antennes pour dire aujourd'hui ce que l'opposition togolaise a à faire, c'est de rester solidaire sur le pouvoir et obtenir les conditions de transparence.
Et si vous n'avez pas obtenu ces conditions, madame?
C'est organiser l'unicité de candidature.
Justement.
Avoir en face de unir un seul bloc.
Et si vous n'obtenez pas ces conditions de transparence?
Mais vous savez, nous, on n'envisage même pas cette hypothèse-là. Parce que, voyez-vous, nous ne croisons pas les bras. Chaque jour que le bon Dieu fait, nous y travaillons. Nous y travaillons et nous sommes sûrs. Ce n'est pas normal. Le pays ne peut pas rester comme il est. Il faut que la classe politique prenne ses responsabilités.
Merci.
Enfin, qu'on se parle sincèrement et qu'on s'accorde sur les conditions des élections. L'intérêt de notre peuple. Vous avez vu ce qui se passe dans notre environnement, ce qui se passe un peu partout en Afrique.
Je ne vous coupe pas la parole, je vais demander.
Nous avons le devoir.
Je reviens vers vous, madame Brigitte Adjiambo. Nous allons donner également la parole au professeur Magloa Kwakuvi également. Alors, professeur Kwakuvi Magloa, pour cette tragédie d'incendie, cette tragédie d'incendie intervient seulement 2 mois avant les élections législatives? C'est la question primordiale que se posent beaucoup de Togolais. Et boycotter ces élections est suicidaire, disent certains en politique togolais. Alors, quelle analyse faites-vous de la situation, professeur?
Oui, on peut soupçonner le pouvoir RPP unir de tirer profit de cette situation d'incendie. Mais ça fait plus de 17-18 ans qu'on n'a pas eu d'élection locale non plus. Donc les législatives sont impérieuses, mais il faut ajouter en même temps les élections locales, parce que ceux qui sont nommés et qui sont à la tête de cette délégation spéciale-là ont l'air d'avoir pris goût à la tâche. Mais ce que je veux dire d'important, c'est que nous sommes en face d'une égalité, une égalité de force entre l'opposition et le gouvernement. Et comme les uns et les autres l'ont dit, il serait suicidaire effectivement de ne pas aller à ces élections parce que ce serait offrir des strapontins à l'UFC et à l'UNI qui sont par-dessus, par-dessous aujourd'hui. Mais il faudrait que cette fois-ci, les partis politiques de l'opposition joignent l'acte à la parole. Ça fait trop longtemps qu'ils nous promettent qu'ils seront ensemble. C'est vrai, aujourd'hui, nous voyons la CACIEL, nous voyons le CFP. C'est une très bonne chose pour le pays, mais pour l'amour du ciel, pas de boycott. Comme Madame Ayamadou Johnson l'a dit, il faut faire tout pour que l'opposition participe à ces élections-là. Mais nous n'irons pas aux élections pour aller aux élections dans des conditions brillantes, comme ça se passe d'habitude au Togo. Il faut que les élections soient claires, qu'elles soient transparentes, et à ce moment-là, ça peut pacifier momentanément le pays, malgré le fait que les règles du jeu ne sont que dans la bouche actuellement, parce que si vous prenez tous les textes de loi que le Togo a produit depuis les années 60, le texte de loi qui a été le plus malmené, c'est le code électoral. On ne sait même plus quelle version est la vraie version, parce que on parle d'ancien, on parle de nouveau. Si vous regardez la page de ce pauvre code électoral, les modifications sont si denses qu'il y en a sur la couverture de garde et à la première page à l'intérieur. Donc, nous devons nécessairement aller aux élections, parce que lorsque le RPT a modifié la constitution en 2002, ils ont dit que voilà, vous avez boycotté les élections, c'est bien fait pour vous. Nous avions le coup de franche pour opérer toutes les modifications à notre avantage. Maintenant, ils trouveront d'autres alibis, ça j'en suis sûr. Mais ce qui est important, c'est que l'opposition ne boycotte pas
ces élections.
Et étant donné qu'ils ont fait l'option du pacifisme et de la non-violence, qu'ils continuent la bataille sur le plan juridique au sein de l'Assemblée nationale.
Justement.
C'est très salutaire pour le pays.
Et nous comprenons effectivement vos positions, la position de Brigitte Café Adjamogo Johnson de la CDPA de la coalition. Nous comprenons également votre position, professeur Kwakubi Magloire. Mais la réalité au Togo, c'est que les élections posent beaucoup de problèmes de transparence. Et cette fois-ci, espérons que le gouvernement, comme il le dit, mettra tout en œuvre pour que ces élections soient transparentes au Togo. Et bien sûr, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, la toute dernière question, Madame Brigitte Adjamogo, vous savez très bien, comme tout Togolais, que l'atmosphère politique est de plus en plus dégradante au Togo. À cela vient s'ajouter cette série d'incendies qui crée en réalité une confusion au sein de la population. Alors la rue n'arrive pas à faire fléchir ce pouvoir, mais on y voit, hein, on y croit quand même, la population croit, la population est déterminée. Et face à cette situation, alors avez-vous une proposition de sortie de crise face à cette situation, Brigitte Adjamogo Johnson? Allô? Allô? J'espère que nous avons perdu Madame Brigitte Adjamogo Johnson, mais nous allons essayer de la contacter encore une fois. Mais je pense que professeur Magloire Kwakubi peut nous répondre en attendant de joindre Madame Brigitte Adjamogo.
Oui, je crois que la solution de sortie, la proposition de solution de sortie, c'est le dialogue. Il n'y a que cette solution-là, parce que après cette solution, il n'y a que le radicalisme, les kamikazes, et tout ce que nous entendons autour de nous, au Nigeria, au Mali. Sans parler de la Côte d'Ivoire qui a la solution extrême de couper le pays en deux et qui n'est pas à même de repenser les plans aujourd'hui. Donc, je pense que, étant donné que tout le monde a le dialogue dans la bouche, il va falloir, si c'est le 19e ou le 20e dialogue, il faut qu'on y aille pour que l'opposition ne se radicalise pas. Parce qu'une fois que ça se radicalise, c'est très, 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 très difficile de calmer les brèches.
Merci, merci, merci infiniment, professeur Magloire Kwakubi, professeur de philosophie à l'université de Lomé et de Kara. Merci d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Madame Kafui Brigitte Adjamogo Johnson nous a encore rejoint depuis Lomé. Et alors, madame, et ils sont nombreux, hein, à répondre encore une fois à l'appel du Front républicain pour la tenue sur le changement ce samedi. Alors, manifestation hebdomadaire. Mais plus de 2 ans de manifestations, les Togolais n'observent pas grand changement dans la vie sociopolitique et économique. Est-ce que vous proposez une solution de sortie de crise à part le dialogue, Madame Brigitte Adjamogo Johnson?
Mais la solution de sortie de crise passe par le dialogue. Malheureusement, on ne peut pas inventer autre chose en politique. Il faut que les forces politiques en présence dans le pays puissent se parler et s'entendre sur les règles minimales du vivre ensemble. Et lorsque nous avons des élections, le professeur Kokouvi disait tantôt que les élections locales étaient importantes, et je suis tout à fait d'accord avec lui, et c'est pour ça que nous pensons que ces élections locales doivent être couplées avec les législatives. Vous vous imaginez si au lendemain de la conférence nationale souveraine, comme cela avait été prévu, si les élections locales avaient été organisées, en 20 ans, je parie que la situation de nos populations aurait évolué positivement. Nous n'en serions pas là où nous en sommes aujourd'hui, avec cette pauvreté généralisée. Le développement des populations à la base, le développement local, ça se fait avec des élus locaux. Donc il nous faut rapidement aller à ces élections-là. Et pour le faire, eh bien, il faut nous entendre sur les conditions, de manière à ce que nous puissions avoir confiance en ces élections et faire confiance aux résultats qui seront proclamés par la suite. Et c'est le vœu que moi je voudrais formuler aussi pour mon peuple, c'est que ces forces politiques qui président aux destinées du pays, comme celles qui aspirent à gouverner ce pays, c'est que finalement, dans l'intérêt des populations, elles puissent comprendre qu'il faut mettre bas la terre, il faut s'asseoir, parler. Il y a des défis importants, il y a d'énormes défis.
Merci.
Qui nous attendent.
Merci beaucoup.
Nous devons résoudre nos problèmes et faire face à ces défis-là.
Eh bien, pour sortir le Togo de l'ornière, merci beaucoup, Madame Brigitte Kafi Adjamagbo-Johnson, présidente de la coalition arc-en-ciel, secrétaire actuelle, secrétaire générale par intérim de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, en direct depuis Lomé. Bonsoir et merci d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique.
Bonsoir aussi à vous, Amos, et merci de m'avoir invité.
VRA, Voix de la Résistance africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Romé Koudodji, Fabi Kwasi, Lucien Moukali, Josué Maoli, Esteban Gagnon, Sylvain Amos constituaient l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio.